c'est un rêve d'Avignon, en fait. C'est un rêve de cet espace, de la Cour d'honneur. Et c'est cette proposition pour laquelle je n'avais pas une pièce en tête, ou, qui est la première chose importante. J'avais envie qu'il y ait de la musique dans le spectacle que j'allais faire. J'avais envie d'un texte poétique et d'une force poétique importante et d'un auteur vivant. Et je me disais que c'était important qu'il y ait un mythe un peu universel dans cette cour où finalement on vient pour retrouver des fantômes, retrouver des âmes de tous ces spectacles qui ont été et un hommage à l'art d'une manière ou d'une autre. Et donc le mythe d'Orphée. En fait, grand 1, Avignon, la cour d'honneur, deuxièmement le mythe d'Orphée, et troisièmement, de manière très simple aussi, enfin très cohérente, premier spectacle que je fais en sortant de l'école en 2004, l'opérette imaginaire de Novarina, et je me disais, finalement, la boucle, il y a quelque chose qui va se terminer avec ça, et commander à Valère, j'avais depuis entretenu des liens évidemment avec Valère Novarina, j'avais jamais retravaillé, mais je l'ai fait beaucoup travailler à l'école et pour des jeunes acteurs, je trouve que c'est une barre au sol pour l'acteur génial. Et je me disais que symboliquement, c'était juste, c'était beau de dire, j'ai commencé comme ça et on boucle cette boucle de cette manière-là. Ça, c'est vraiment la réalité. Après, j'ai vu une première fois Valère en lui parlant de ce mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée, donc il y avait, pourquoi le mythe d'Orphée ? Depuis, pour la musique dans la cour, et parce que j'avais mis en espace, enfin en scène c'est un trop grand mot, mais l'opéra de Monteverdi dans la basilique de Saint-Denis, il y a 2 ans, 3 ans maintenant peut-être. Et depuis j'ai envie de travailler sur cet opéra, simplement. Et là aussi il y a quelque chose de tout mon travail depuis des années qui se voit, enfin qui s'exprime à travers ce mythe, c'est-à-dire le prolongement de la parole en musique ou l'inverse, mais tout n'est que musique, ou tout est musical, tout est sensible, autant que sensé et raisonnable et rationnel, et Rabelais finalement, enfin les paroles gelées de Rabelais. Et donc je me disais, ce mythe-là, on va pouvoir en faire quelque chose, l'opéra Monteverdi est magnifique, le baroque en plus, je trouve que c'est important, enfin que ça correspond à quelque chose d'aujourd'hui, de fort, et mon amour pour les chanteurs baroques aussi, enfin je viens de mettre en scène Rodelinda de Handel, il y a eu plusieurs aventures croisées qui fait que j'avais, et au tout début, proposé à Emmanuel Haïm de travailler avec moi sur une réadaptation de l'Orfeo de Monteverdi, vraiment. Et peut-être d'ailleurs pas forcément en commandant un auteur. Puis Emmanuel, c'était trop court dans le temps pour ce. C'était il y a deux. Enfin, finalement, ça s'est fait assez rapidement. Puis je me suis assez vite dit qu'en fait, ma manière de faire du théâtre, quand je mettais en scène depuis des années, c'était de faire la musique. Et que non, on n'allait pas s'appuyer sur un chef d'orchestre justement pour faire du théâtre. Même si ça allait être très musical, mais en fait pour faire comme ce qu'on fait d'habitude, et c'est-à-dire on est des bricoleurs, on est presque ridicule, mais j'aime à le revendiquer. Il n'y a pas vraiment, personne n'est musicien vraiment, personne n'est chanteur vraiment, mais est-on vraiment acteur un jour, enfin, et Novarina est arrivé avec par là, c'est-à-dire ce bricolage, cette envie de joie aussi. Finalement, au début, le spectacle dans la cour, j'avais aussi envie de faire le lien entre Rabelais, les paroles gelées, la troupe, et Proust, l'avant-dernier spectacle que j'avais fait, plus intime, plus profond, qui questionnait au fond vraiment le théâtre. Qu'est-ce que le théâtre? Qu'est-ce que la poésie au théâtre? Qu'est-ce que la poésie tout court? Et par quoi est-on touché au théâtre, juste? Et une des réponses était Proust, par ce que l'on reconnaît, par ce qui fait écho à nous sans qu'on le sache, les fantômes, enfin je redis pareil. Donc je vois Valère Novarina, je lui propose d'écrire pour notre troupe, en lui donnant un cadre, en lui disant moi je veux qu'il y ait la musique de Monteverdi, évidemment tu feras bien ce que tu voudras, et il ne s'agit pas de te commander d'écrire une histoire, c'est à qui je m'adresse. Mais si ça pouvait avoir un vague écho avec l'opéra et cette histoire d'Orphée et d'Eurydice. Point barre. Ça s'est arrêté là, presque. Au tout début, bah, il était assez enthousiaste. C'est assez rare, je crois, qu'on lui commande des textes. Et en même temps, il y avait une question de temps et de contingence de temps qui faisait qu'il faisait sa création à Avignon, sa création à la Colline en tout début de saison, en septembre là, et que donc il n'arrivait pas à donner une réponse, à dire jusqu'à septembre je pourrais rien faire. Et moi je lui disais, mais moi j'ai besoin quand même cet été, un an avant, de pouvoir commencer à rêver, au moins qu'on en parle, et disons que tu me donnes un texte pour la Toussaint, un maximum. Et là il me dit, non, mais la Toussaint j'y arriverai pas, on sera en pleine tournée, j'aurai à peine créé fin septembre à la Colline. Bon. Donc il commence par me dire non. Et puis il voit le dernier spectacle que j'ai fait au TGP qui était Eugène Onéguine, enfin Onéguine, d'après Eugène Onéguine traduit par André Berkowitz, qui est vraiment l'anti. C'est-à-dire, quand il m'a dit je vais venir voir ce spectacle, je me suis dit non mais au secours, c'était un spectacle sous casque, il n'y a que des micros, c'est que du son, c'est hyper. Apparemment en tout cas technique, et c'est l'inverse de la chair, la transpiration, les postillons. Et la langue de Valère, a priori, c'est-à-dire tout est susurré à l'oreille. Fin. Et étrangement, contre toute attente, je crois qu'il a été assez, je ne sais pas si c'est séduit le terme, mais en tout cas, ça l'intéressait. Et il s'est redit. On avait une histoire, enfin, on se connaissait, il avait vu évidemment l'opérette imaginaire. L'opérette imaginaire, c'est assez marrant cette histoire, c'est un atelier d'élèves, on est tous à l'école Claude Mathieu, on fait un choix libre, enfin, une espèce de blague, et on dit on va pas faire les 4 heures de l'opérette, mais on prend le prologue et l'acte 3 et on le met en scène, et en fait on peut en faire ce qu'on veut, c'est génial, c'est drôle, c'est joyeux. Moi j'avais le souvenir de Claude Buchwald et de ce spectacle merveilleux, et évidemment on invite Valère Novarina à l'école, évidemment il ne vient pas, et il envoie en fait en souterrain son fils Virgile, et le lendemain soir Valère était là. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 fois, première date personne, deuxième date Virgile, troisième date Valère. Et ça correspond pile au moment où on lui commande un texte au français, il rentre au répertoire de la Comédie française, et en même temps qu'il dit « je rentre dans l'institution, je ne veux pas tout d'un coup rentrer dans le Panthéon, mais je vais faire un festival avec tous mes amis qui ont fait mes spectacles, mes acteurs, Claude Buchwald, Merlin, enfin tout ça ». Au Lavoir Moderne parisien, où j'ai commencé, petite salle de 70 places, magnifique, dans le 18e. Et il nous invite, dans le cadre de ce festival, il avait une carte blanche pendant un mois, on est en janvier 2008, je crois, 2007, je ne sais plus. Non, peut-être même avant, les dates, je mélange tout. Mais donc, il nous programme, dans le cadre de son festival, qui s'appelle Nourriture Novarina, où en gros, il dit, je vais rentrer fin janvier au français, je fais ça avec tous les offres et tout ce que je suis pour. Et en fait, on se rend compte vraiment à ce moment-là, on joue le spectacle, c'est grâce à ce spectacle que tout commence. Et on part même en tournée, on se retrouve en Roumanie ensemble. Enfin, donc voilà, pour dire qu'on a quand même, on avait un petit lien. Il est venu voir le Rabelais, il m'a écrit à ce moment-là. Bon, c'était toujours dans un coin de ma tête. Donc je le vois, et quand il me dit je viens voir Onéguine, alors là je dis, je pense. Que rien ne marcherait, il n'avait pas de temps pour écrire, il vient voir un spectacle presque radiophonique, et je parle à l'auteur peut-être le plus emblématique de la théâtralité que ça puisse être, voilà. Et voilà, finalement il me dit non mais on va le faire, on va trouver le temps, je vais écrire, et puis il commence et il m'envoie, alors on se voit régulièrement tout le mois à partir d'octobre. On se voit, on a dû se voir, je sais pas, 6-7 fois dans ses ateliers. À chaque fois, il me montre rien. Mais il me donne des, il me dit une phrase, mais il me montre rien. Et en même temps, on parle. Moi, je lui raconte quel morceau de l'opéra j'aimerais mettre. Je lui raconte la distribution surtout, parce que donc je lui dis, ils seront tant d'acteurs, tant d'hommes, tant de femmes. Ça, c'était précis. Et je me rendais pas compte, honnêtement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses inconscientes dans la vie, mais au théâtre, j'espère en tout cas. Je ne me rendais pas compte à quel point, en demandant à Valère Novarina d'écrire quelque chose à partir de l'Orphéo, enfin du mythe d'Orphée, à quel point c'était cohérent par rapport à lui. Et par rapport à, en fait, tout son cheminement depuis les années 70, vers la musique et vers tout est musical, tout est vers la polyphonie des mots. En fait, quand Orphée dit, enfin quand Orphée pense le monde et le soigne avec la musique, quand tout d'un coup Orphée trouve les mots et que c'est là où la guerre de l'humanité démarre. L'endroit de la parole dans notre société, l'endroit de la musique dans notre monde, tout ça était franchement impalpable. Et même si, moi, je savais ce que racontait à peu près le mythe, bien sûr, et puis il y en a tellement de versions qu'on serait bien orgueilleux de pouvoir donner une définition. J'ai la mienne, on en a tous. Mais en fait, Novarina, c'est ça qui m'intéressait dans le mythe d'Orphée sans le savoir. C'est-à-dire vraiment, quand je dis une phrase, quand je prononce une phrase sur un plateau de théâtre, je sais qu'il va y avoir autant, et en tout cas c'est pour ça que je fais du théâtre, il va y avoir autant de spectateurs que d'interprétations subtiles, différentes, nuancées de cette phrase, ou même de ce mot. C'est Rabelais, c'est les paroles gelées, il y a autant d'hommes qui font fondre les dragées de couleurs que sont les mots de Rabelais, qui réchauffent et qui donnent les couleurs de chaque sens, et au fond le sens et les sens sont la même chose, la musique et le cérébral sont profondément, intimement liés.